VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 25 février 2016. Au sommaire ce soir.
Élection au Niger, Mamadou Issoufou en tête des résultats, mais parviendra-t-il à réussir son pari d'éviter un second tour? Nous avons sur place notre envoyé spécial, Nicolas Pinault.
Mission de l'Union africaine au Burundi, les 5 chefs d'État continuent leurs efforts en vue de désamorcer la crise.
Nous sommes déjà engagés dans le dialogue. Le plus important, c'est qu'il y a une plateforme qui est ouverte. Tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole sont les bienvenus.
Tournée africaine de Ban Ki-moon, après le Burundi et la RDC, le secrétaire général de l'ONU était aujourd'hui au Soudan du Sud.
Et nous reviendrons ce soir sur le bras de fer entre le géant de la téléphonie mobile Apple et la Sûreté fédérale américaine. Apple doit répondre plus tard demain à la demande d'accès au portable du tueur de San Bernardino.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Crise au Burundi, la délégation de l'Union africaine, composée de 5 chefs d'État africains et de gouvernement, s'entretenait aujourd'hui avec les protagonistes de la crise, à savoir la majorité, l'opposition et la société civile. La délégation doit s'entretenir d'ici demain avec le président Pierre Nkurunziza. Les précisions de Christophe Nkurunziza.
Le ballet diplomatique s'est poursuivi ce jeudi à Bujumbura. La mission de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et ses homologues sud-africains Jacob Zuma, sénégalais Macky Sall, gabonais Ali Bongo Ondimba et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn sont déjà à Bujumbura. Cette délégation de haut niveau a été mandatée lors de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier. Dernier. Objectif, faire comprendre à leurs homologues burundais que le dialogue inclusif reste une priorité pour les dirigeants africains afin de mettre fin à plus de 10 mois de violence, principalement dans les quartiers contestataires de Bujumbura. Mais rien n'est dit si cette délégation de l'Union africaine va aborder la question épineuse de l'envoi d'une force de maintien de la paix au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Qu'attendent les autorités burundaises de cette délégation? Le ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Alain Niamitwe, s'est exprimé devant la presse.
Ils ont eu un mandat précis de la part du sommet de l'Union africaine qui a précisé qu'ils viendront s'entretenir avec les autorités burundaises, mais aussi avec les parties prenantes burundaises pour effectivement discuter des questions en rapport avec le dialogue. Or, nous sommes déjà engagés à pleine vitesse dans le dialogue inclusif inter-burundais. Il y a une plateforme qui est ouverte, sauf, bien entendu, ceux qui ont pris les armes, parce que ça, c'est contraire à la résolution 2248 du Conseil de sécurité.
Alain Niamitwe, ministre burundais des Relations extérieures et de la Coopération.
Et Burundi toujours, la répression du pouvoir s'est accrue ces dernières semaines et se déroule désormais à l'abri des regards. C'est du moins ce qu'affirme Human Rights Watch en appelant au déploiement d'une force de police internationale. L'ONG américaine accuse les autorités de s'en prendre avec une brutalité accrue aux opposants présumés. Les forces gouvernementales tuent, enlève, torture et arrête arbitrairement de nombreuses personnes à un rythme alarmant, a déclaré l'Organisation de défense des droits de l'homme.
Élection présidentielle au Niger, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit lentement. De son côté, l'opposition continue de dénoncer les résultats. Nicolas Pinault est notre envoyé spécial à Niamey.
Oui, la Commission électorale nationale indépendante qui continue à dévoiler des résultats provisoires depuis le palais des congrès de Niamey. Très critiqué pour sa lenteur, nous sommes 4 jours après le scrutin présidentiel. La CENI a décidé depuis ce matin de passer les bouchées doubles. Selon ces chiffres de la CENI qui portent sur plus de 66% des bureaux de vote, le président Mahamadou Issoufou serait en tête avec près de 50% des suffrages. Deuxième à Mahamadou entre 17 et 15%, suivi de Seyni Oumarou à près de 10% des suffrages exprimés. Oui, mais voilà, l'opposition, vous le savez depuis plusieurs jours, qui rejette ces résultats et qui parle de fraude. Et il y a quelques instants, la COPA 2016, la coalition pour l'alternance, qui vient de tenir un point de presse au siège du MNSD Nassara. Et cette COPA 2016 qui exige la suspension du site de la CENI, car selon elle, ce site ne donne pas les bons chiffres et les bonnes informations. Elle demande également la confrontation des procès-verbaux des bureaux de vote qui ont été centralisés au niveau communal et régional. Vous voyez, la tension n'est pas retombée ici à Niamey entre l'opposition et le pouvoir. Nous attendons ce soir peut-être la promulgation des résultats provisoires par la CENI. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Les magistrats burkinabés sont en grève dans la rue depuis hier. Ils exigent des décrets d'application de leur nouveau statut. Mais en face, le gouvernement affirme qu'il ne cédera à aucune pression.
Dans le nord-est du Nigeria, un policier a été tué aujourd'hui par l'explosion d'un engin piégé dans un commissariat de Yola. La police citée par l'AFP explique qu'il s'agissait d'une explosion accidentelle dans un dépôt d'armes. L'engin explosif avait été saisi au groupe islamiste Boko Haram.
Retour sur l'attaque contre le domicile du président Alpha Condé en 2011 en Guinée. Un tribunal militaire a renvoyé au 3 mars son verdict, le verdict du procès de 6 militaires accusés de manquement lors de l'attaque. Le verdict était initialement prévu aujourd'hui.
Somalie, explosion d'obus de mortier à proximité du palais présidentiel à Mogadiscio. Au moins 3 membres d'une même famille, dont 2 enfants, ont été tués, rapporte l'AFP.
En Afrique du Sud, au moins 3 grandes universités ont été fermées ce jeudi à la suite de violences, dont l'incendie volontaire hier de plusieurs bâtiments sur un campus. Une vague d'incidents vivement condamnée par le président Jacob Zuma. Jacques Aristide.
L'université du Nord-Ouest a fermé hier soir, pour une durée indéfinie, l'un de ses 3 campus à Maïgeng, dans le nord du pays. Des étudiants sont accusés d'avoir mis le feu à plusieurs bâtiments, rapporte l'AFP. Les manifestants qui réclamaient la dissolution d'un conseil d'étudiants dont ils remettaient en cause la composition ont été dispersés par la police qui a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Pour le chef de l'État sud-africain, l'incendie de bâtiments universitaires est inexplicable et ne peut en aucun cas être toléré. Cela, ajoute Jacob Zuma, au moment où son gouvernement a fait de l'éducation une priorité pour la jeunesse. En début de semaine, l'université de Pretoria a été le théâtre de heurts entre étudiants noirs et blancs lors d'une manifestation pour dénoncer l'enseignement en Afrikaans, la langue de la minorité blanche en Afrique du Sud. L'université de Free State à Bloemfontein a également fermé ses portes après des incidents raciaux sur fond de revendications sociales lundi soir lors d'un match de rugby sur le campus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé aujourd'hui au Soudan du Sud, où il a commencé à s'entretenir avec le président Salva Kiir de la guerre civile qui déchire le pays depuis décembre 2013. On fait le point avec John Lyndon.
À son arrivée en milieu de journée en provenance de Kinshasa, M. Ban a été accueilli à l'aéroport de Djouba, la capitale du Soudan du Sud, par le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Barnaba Marial Benjamin. Il a ensuite été reçu par le président Salva Kiir, avec lequel il devait évoquer les combats qui ravagent le pays depuis plus de 2 ans et l'application de l'accord de paix signé en août 2015 entre M. Kiir et son rival Riek Machar, le chef de la rébellion. L'attaque des 17 et 18 février sur le camp onusien des déplacés de Malakal, la capitale de l'État du Haut-Nil, devrait également figurer au menu des discussions. M. Ban devait également visiter le camp des déplacés de Djouba, parler avec les ONG qui y travaillent et rencontrer des représentants des diverses agences onusiennes. Le Soudan du Sud est la dernière étape de la tournée africaine du secrétaire général de l'ONU qui l'a menée au Burundi et en République démocratique du Congo.
Crise migratoire en Europe. Ils sont des centaines à prendre la route aujourd'hui, à pied, de la Grèce vers la Macédoine. Les autorités ont décidé de limiter le nombre des autocars autorisés à s'y rendre afin de ne pas aggraver l'encombrement à la frontière. 400 personnes ramenées d'Idomeni par les autorités grecques essayent de retourner à pied à ce poste frontière situé à 80 km de leur camp.
Par ailleurs, dans le centre de la Grèce, 200 autres personnes marchaient aussi en direction d'Idomeni, distante de 300 km, escortées par les forces policières. Un troisième groupe de 100 personnes est parti de Kozani, dans le nord, également vers la frontière, a annoncé l'agence de presse d'État, ANA. Dans les 3 cas, on ignorait la nationalité de ces personnes.
Le Parlement européen réclame un embargo sur les livraisons d'armes à l'Arabie saoudite. Dans une résolution non contraignante adoptée ce jeudi, les députés européens condamnent les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie et le blocus naval qu'elle a imposé au Yémen, qui ont conduit à des milliers de morts et ont encore déstabilisé davantage le pays.
Une première en Afghanistan depuis l'implantation dans ce pays du groupe État islamique. 10 membres du groupe ont déposé les armes et rejoint le processus de réconciliation nationale, ont affirmé aujourd'hui les autorités.
Et les femmes atteintes du virus Zika peuvent continuer à allaiter leur bébé, estime l'Organisation mondiale de la santé. Au vu des preuves existantes, les bénéfices de l'allaitement maternel pour l'enfant et la mère surpassent tout risque de transmission du virus Zika à travers le lait maternel, a conclu l'OMS dans des recommandations adressées aux autorités des pays touchés.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique avec Anastasie Tudiech.
Selon l'agence APA News, la Banque mondiale vient d'octroyer au Burkina Faso une enveloppe de 30 millions de dollars, soit environ 15 milliards de francs CFA pour la période 2016-2021. Ce fonds permettra de soutenir le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne, mais également de développer l'agriculture, l'accès à l'eau, la santé et l'enseignement supérieur. En marge du Congrès mondial de la téléphonie mobile, qui s'achève aujourd'hui à Barcelone, des organisations non gouvernementales ont organisé un congrès pour attirer l'attention sur les conditions d'obtention des matières premières nécessaires à la fabrication des téléphones. L'une de ces associations, le Réseau des organisations pour la République démocratique du Congo, accuse l'industrie de financer indirectement un conflit qui dure depuis plus de 20 ans. La République démocratique du Congo produit plus de la moitié du cobalt mondial utilisé pour les téléphones portables. Environ 20% provient de mines artisanales dans le sud du pays, où les travailleurs l'extraient à la main, sans outils ni protection, a ainsi dénoncé Maria Cañadas, présidente d'Amnesty International pour la Catalogne. Réunion du G20 à Shanghai, en Chine. Demain et après-demain, les ministres des Finances et représentants des banques centrales des 20 plus grandes puissances mondiales plancheront notamment sur les multiples risques qui menacent l'économie mondiale, l'essoufflement des pays émergents et la chute des cours des matières premières. Les 20 restent toutefois divisés quant aux réponses à apporter.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Ce thème annonce comme chaque jour la page sport ce soir avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors on commence en football, FIFA. Peut-on parler d'une élection en terrain miné ?
9 mois dans la tempête, Gabi, l'image de la FIFA a été écornée et restée embourbée dans la pire crise de son histoire sur fond de soupçons de corruption. Deux têtes d'affiche, Infantino et Salman, se démarquent du club des 5 candidats en lice. Le cheikh Salman est favori mais décrié. Reporters sans frontières juge son élection inacceptable et l'accuse d'avoir joué un rôle dans la répression des soulèvements démocratiques dans son pays en 2011. Un député conservateur britannique, Damian Collins, l'a accusé de corruption, mais Salman minimise et assure plutôt que le football réussirait à surmonter les épreuves. Évidemment, Gianni Infantino, le plan B devenu plan A. Un sondage de l'AFP le crédite vainqueur, mais son principal handicap, Gabi, est lié à son profil de technocrate et d'administratif, ainsi que son étiquette d'Européen. Les trois autres candidats mineurs, c'est le prince Ali, jugé agitateur en faute de mieux, Jérôme Champagne, homme du céréal sans espoir, l'homme d'affaires sud-africain, c'est le troisième candidat, Tokyo Sexuel. Un candidat très discret.
La Liga, Zidane, Simeone, le derby des idoles.
Oui, deux icônes face à face, Zizou et El Cholo, c'est le surnom de Simeone, vont confronter leur style dans le derby madrilène samedi en championnat d'Espagne. Simeone a surtout marqué les esprits avec la Lazio en inscrivant le seul but de la victoire face au solide leader, la Juve de Zidane, entre 99 et 2000 pour être sacré champion d'Italie in extremis, Gabi. Et côté supporter du Real, ZZ reste l'homme de la Novena, la 9e Ligue des Champions de l'histoire du club, remportée avec une volée d'anthologie du français en finale en 2002.
Oui, Gabi. Il faut se le rappeler. Robert Pires annonce sa retraite. Eric, dernier champion du monde 98 à le faire.
Oui, le milieu offensif français a 42 ans et a été absent du terrain plus d'une année. Son principal fait d'armes est d'avoir adressé la passe décisive pour le but en or marqué par David Trezeguet en finale de l'Euro 2000 face à l'Italie 2-1. La mort subite, tout en rappel, Gabi. Et Robert Pires faisait partie de l'équipe des Invincibles avec les Gunners d'Arsenal, qui avait terminé la saison 2003-2004 sans défaite.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce jeudi, Morgane Guiriac et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier, Morgane. Notre première escale ce soir est à Niamey.
Oui, notre envoyé spécial s'est intéressé au bouleversement de la religion musulmane dans le pays. Au Niger, pays musulman à 98% selon les chiffres du gouvernement, la religion s'est modernisée. Reportage à Niamey de Nicolas Pinault.
Au Niger, les mosquées sont partout. De la petite salle de prière de quartier à la sublime grande mosquée de Niamey, la religion musulmane est omniprésente dans ce pays sahélien de près de 18 millions d'habitants. L'islam y est d'inspiration soufie et les confréries ont joué un rôle important jusqu'à la colonisation. Jean-Pierre Olivier de Sardan est socio-anthropologue à l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à Niamey.
Bien sûr, il y avait avant, sous la colonisation, la confrérie principale, c'était la Kadria. Mais elle a presque disparu, elle a vraiment perdu beaucoup. Aujourd'hui ici, c'est comme au Sénégal, la Tidjania réformée, hein, Niassène. Donc c'est la Tidjania qui est en lien direct. Ici, c'est Kiota, la principale place forte de cette confrérie tidjane, mais qui est directement liée au Sénégal. Donc c'est cette confrérie tidjane qui est actuellement la plus importante de très loin de ce que l'on a appelé l'islam confrérique de type soufi, si vous voulez.
La religion musulmane subit depuis 30 ans de profonds bouleversements. L'islam traditionnel est bousculé, comme l'explique Abdoulaye Sounaï, chercheur au Zentrum Moderner Orient de Berlin, et spécialiste de l'islam au Niger.
Je dirais jusqu'à la période de la démocratisation, c'est-à-dire jusqu'en 1991-92, c'était un islam monolithique, il y avait une seule association qui régulait pratiquement tout le champ islamique. Donc il n'y avait pas de compétition en tant que telle. Mais avec la démocratisation, donc le pluralisme islamique aussi, le champ islamique est devenu un champ de compétition.
Concurrence confessionnelle et l'arrivée des nouvelles technologies de l'information qui a aussi entraîné un meilleur accès aux textes religieux qui étaient jusqu'alors assez limités. Les livres étaient très chers à importer d'Arabie Saoudite ou de Libye. Mais cette démocratisation, voire vulgarisation du savoir, a aussi entraîné le développement de prêcheurs de rue dont le niveau de connaissance du Coran varie sensiblement, comme le regrette Boubacar Seydou Touré, le secrétaire général de l'Association islamique du Niger.
C'est comme quelqu'un qui n'a pas son permis, mais quand vous lui donnez une voiture, ne maîtrisant pas la règle routière, mais il va tuer des gens. Ceux qui n'ont pas de grands bagages et qui se mettent à vraiment prêcher dans la rue, c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, pour être un bon prédicateur, il faut connaître ta religion. Vous savez, au temps de feu général Sénou Kounté, l'islam était réglementé. De nos jours, il n'y a plus d'autorisation de prêche.
Autre phénomène qui bouleverse l'islam traditionnel au Niger, c'est le mouvement Izala. Mais nous en reparlerons demain dans le prochain volet de cette série. Nicolas Pinault, Niamey, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur les élections générales au Niger. 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ils devaient voter entre 15 candidats pour présider le pays. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, mais les résultats seront-ils acceptés par tous? Après 4 coups d'État dans son histoire et la menace de Boko Haram, de quoi sera fait l'avenir du Niger? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
C'est par les alliances stratégiques que l'Afrique avancera dans son développement. Telle est la vision du forum Africalia, dont la 4e édition s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Plus de 400 entreprises issues des quatre coins du monde participent à ce forum qui allie durant 48 heures réseautage et réflexion autour de la problématique de l'énergie en Afrique. De Ouagadougou, Burkina Faso, la correspondance Lisa Napan.
Et de quatre pour ce forum qui a gagné son pari de réunir encore une fois, et ce, malgré les événements dramatiques que le Burkina a vécu il y a quelques semaines, 450 participants venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie principalement, avec un même objectif, nouer des partenariats gagnant-gagnant et prospecter des domaines d'investissement. Adama Traoré, membre de la délégation spéciale de la Chambre de commerce burkinabé.
Une plateforme qui permet à des hommes d'affaires de se rencontrer à travers des rencontres B2B sur la base de besoins pour réaliser amplement exprimé. C'est une des forces d'Africalia. Donc, avant de venir, vous avez choisi des gens que vous souhaitez rencontrer et des gens ont choisi de vous rencontrer. Et vous êtes sûr d'atteindre les résultats auxquels vous vous attendez.
La présence d'un important nombre d'investisseurs qui réjouit le Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Tieba.
Africalia attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, ce qui est bien pour l'économie nationale, parce que ce sont les entreprises privées qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Et ce que nous devons poursuivre, faire en sorte que l'environnement des affaires chez nous soit attractif. Alors, c'est un ensemble de facteurs qui sont mesurés par l'indicateur Doing Business. Je prends l'engagement de faire en sorte que d'ici un an, le Burkina Faso soit dans le top 10 des pays africains.
Africalia a toujours accouché de partenariats suivis, rassure François Villain. Elle est la déléguée générale de Futuralia, forum d'affaires français de Poitiers.
Habituellement, sur 6000 rendez-vous, 80% donnent lieu à des échanges ultérieurs. La majorité des contacts sont des contacts commerciaux. Ça, c'est les partenariats les plus fréquents. Mais on a aussi beaucoup de partenariats techniques, concevoir ensemble un produit, des partenariats financiers. L'intérêt d'Africalia, comme de Futuralia, c'est le même produit en fait, hein, c'est d'être multisectoriel.
L'énergie est le thème qui focalise l'attention des participants. Un problème énergétique encore plus accru en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso, où l'État fait face à de réelles difficultés de fourniture en électricité, reconnaît le Premier ministre burkinabé.
Nous avons un coût de l'énergie qui est trop élevé. Nous sommes dans l'Union économique et monétaire ouest africaine, les pays là où le coût de l'énergie électrique est le plus élevé. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on travaille en développant par exemple le solaire, à faire en sorte que le coût moyen du kilowattheure de l'énergie soit bas et que ça puisse attirer donc plus d'investisseurs étrangers. Et voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui, pour encourager les hommes d'affaires qui sont venus en dépit d'un environnement régional et puis national qui a pu être perturbé par les attentats, les rassurer. C'est la volonté du gouvernement de créer un cadre, un environnement qui leur permet de faire des affaires.
Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Nous partons maintenant à Kinshasa. La conférence internationale sur l'investissement privé dans les Grands Lacs s'est ouverte hier dans la capitale de la République démocratique du Congo en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ce forum vise à promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et à contribuer effectivement à la paix et la stabilité durable dans la région. De Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, voici le reportage de Roger Kalala.
La conférence de Kinshasa devrait aider à tourner définitivement la page sombre de la violence dans la région des Grands Lacs. C'est le président Joseph Kabila qui l'a dit à l'ouverture des travaux. La région des Grands Lacs a pour le moment le regard tourné vers l'avenir et le président de la RDC a émis le vœu de voir les économies se développer dans la sous-région.
J'ai bon espoir que ces assises permettront une véritable interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national, régional et international, réunis dans cette salle, en vue de consolider la montée en puissance de la croissance en cours dans la région, de matérialiser la création des emplois et de tourner ainsi définitivement et de manière irréversible la page sombre de la violence dans notre espace régional.
Et le secrétaire général de l'ONU a relevé que les pays de la région des Grands Lacs offrent plusieurs possibilités aux investisseurs avec un potentiel immense. Ban Ki-moon a déclaré qu'il ne suffit pas de régler les problèmes sécuritaires pour développer la région des Grands Lacs.
On le sait, la région possède d'abondantes ressources naturelles, mais on sait moins que ses habitants sont très travailleurs. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Il faut une bonne gouvernance et un état de droit.
Bien avant Ban Ki-moon, le président de la Fédération des entreprises du Congo a indiqué que l'intégration économique au sein de la région reste faible. Albert Yuma a identifié quelques défis à relever pour parvenir au développement économique. Il a notamment parlé de la consolidation de la paix et du développement d'un réseau routier et ferroviaire régional.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, le débat continue autour du litige entre le FBI, la Sûreté fédérale, et Apple sur l'accès aux données privées. Cette semaine, un juge américain a ordonné aux géants de la téléphonie mobile d'aider le FBI à décrypter le téléphone du meurtrier de 14 personnes à San Bernardino, en Californie. Ce à quoi s'oppose Apple. Eddie Sango a joint à Dakar, au Sénégal, le rédacteur d'Afrique IT News et programmeur-analyste Sadibou Sow.
La problématique est plus complexe parce que pour Apple, ça représente d'abord un risque énorme parce que les données aujourd'hui représentent pour la plupart de ces entreprises, des entreprises comme Google, Microsoft qui ont pris parti avec Apple, les données représentent de l'or. C'est-à-dire que si aujourd'hui ces données dont ils disposent sur les utilisateurs sont accessibles par quelqu'un d'autre, c'est des milliards et des milliards de dollars qui potentiellement leur passe sous la main. Le FBI finalement demande la mise à disposition des données de 12 téléphones. Donc comme le disait le directeur de Apple, ça commence par un téléphone et finalement après tous les téléphones des utilisateurs pourront être visités par des hackers ou des gouvernements mal intentionnés. Alors à mon avis, la problématique elle est beaucoup beaucoup plus compliquée que simplement des données d'utilisateurs. Je pense que c'est trop simple de penser qu'Apple ne se débat que pour ses utilisateurs. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça derrière les motivations de l'entreprise américaine.
Est-ce que vous pensez que si Apple cédait en donnant la clé de décodage au FBI, ce serait donner la clé aux pirates et ainsi perdre toutes ces années de recherche et tous ces investissements qu'ils ont mis pour protéger les utilisateurs d'Apple?
Ce serait vraiment présomptueux de penser que dans le monde, personne n'est aujourd'hui capable de débloquer les téléphones d'Apple.
Est-ce que vous ne pensez pas que si jamais les FBI gagnaient cette bataille, ce serait ouvrir une porte pour les jeunes démocraties ou même pour l'Afrique où on sait des pouvoirs en place vont imiter cet exemple?
Apple accepte de donner une porte dérobée sur les téléphones que l'entreprise construit. Ça ne change pas grand-chose dans l'environnement africain. De toute façon, les données privées sont à la merci des gouvernements. S'ils ont une équipe assez performante pour réussir à identifier les personnes, ce qui pour la plupart des gouvernements est le cas.
Apple a jusqu'à demain pour répondre à la demande de la justice. Sadibou Sow est programmeur analyste, rédacteur d'Africa IT News.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette semaine, vous et nous suit un maître tambour burkinabé à New York, la première coureuse cycliste africaine, et oui, ça existe, et apprend à danser le tango et la salsa. Les téléspectateurs ne sont pas en reste. Dans On dit quoi, chacun montre son pas de danse préféré. Et puis, il sera question de nourriture avec l'Anglais Express, mais aussi dans la toute nouvelle rubrique. Elle s'appelle Arôme. À bientôt.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Jackson Witt. Présentation, Morgane Diriek et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, si vous voulez partager des photos sur ce qui fait l'actualité chez vous, eh bien, notre page Facebook VOA Afrique est à votre disposition. Et bien sûr, pour plus d'infos 24 sur 24, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.